réforme, développement, impact. Centre Zoé.
Comment faire de vos résolutions des réalités? Et ça fait plusieurs semaines déjà qu'on échange là-dessus et qu'on cherche à voir avec la parole de Dieu et en comptant sur la grâce de Dieu, bah comment faire pour que, c'est vrai, on est déjà au mois de février maintenant, mais les résolutions qu'on peut prendre en début d'année, mais à n'importe quel autre moment, comment faire pour que ces résolutions ne restent pas que des résolutions, ne restent pas que lettres mortes, ne restent pas quelque chose que nous avons décidé un jour et puis qui finalement n'aboutit nulle part. Mais comment faire pour que ce que nous décidons, les résolutions que nous prenons, puissent aller quelque part et se réaliser? Et on a déjà observé plusieurs choses. On avait commencé avec un premier message qui s'intitulait « Se fortifier dans ses résolutions ». On avait parlé de Néhémie qui avait cette vision, vraiment ce désir de dire « On ne peut pas rester dans la honte où on est avec mon peuple maintenant en revenant de la captivité et on va rebâtir la muraille ». Et il a soumis ce projet aux autorités d'une part, et puis quand il a eu l'autorisation, il a soumis ce projet à son peuple. Et le peuple tout entier s'est levé, a répondu « Levons-nous et bâtissons ». Et l'Écriture nous dit « Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution ». Et on a vu qu'ils ont traversé différentes choses, notamment la moquerie, ils ont traversé des attaques, des complots, et plein de choses qui sont venues contre eux, mais ils ont établi, entre autres, une garde, c'est-à-dire qu'ils étaient vigilants, ils étaient en veille, et ils ont continué jusqu'à accomplir l'objet de leur résolution. Et ils ont reconstruit la muraille en 52 jours, et ça a été un sujet de gloire, évidemment pour l'Éternel, pour eux-mêmes qui ont tenu ferme, et on a entendu parler de ça tout autour. Et c'est une chose excellente. Et puis on avait parlé de l'onction. Je vous avais montré qu'à partir de l'exemple de David, lorsque Dieu avait appelé David et voulait le mettre à part vraiment pour sa mission d'être roi en Israël, il envoie vers lui le prophète Samuel. Et le prophète Samuel devait oindre quelqu'un pour être le prochain roi. Et le père de David va emmener tous ses fils et puis ils vont défiler comme ça devant le prophète. Mais aucun d'entre eux ne correspondait. Tous étaient grands, beaux, forts. Mais celui que Dieu avait choisi, c'était David, qui était pourtant en train de paître les brebis tranquillement. Et Dieu l'a trouvé là où il était. Et je ne vais pas tout reprêcher, même si c'est très tentant. Mais y avait des choses excellentes. Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que Jésus est venu sur la terre aussi pour nous arracher à ce monde, nous donner une nouvelle destinée. Et il a envoyé le Saint-Esprit nous communiquer l'onction. Et à chacun d'entre nous, le Saint-Esprit communique une onction particulière pour que nous puissions remplir notre mission, pour que nous puissions vivre notre vie, accomplir notre destinée et réaliser des choses dans cette vie. Et c'est excellent. Et puis on avait parlé aussi du travail, de faire des progrès et de l'importance d'être excellent dans notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que David, alors qu'il était encore berger, alors qu'il n'était pas encore dans sa position, mais à un moment, pardon, David a été introduit à un moment auprès du roi Saül, parce qu'il était connu pour avoir été le meilleur joueur de harpe dans tout le pays. Et donc on voit que là, David avait un don, un talent, une capacité qu'il avait reçue de Dieu, mais il avait travaillé. Et il avait travaillé de telle sorte qu'il était devenu le meilleur dans ce qu'il faisait. Et on a vu à travers les Écritures que nous sommes encouragés aussi à travailler, à faire fructifier le don de Dieu dans notre vie. Nous sommes appelés à faire des progrès, à nous épanouir, à grandir, à apprendre, à nous développer, de telle sorte que lorsque Dieu aura besoin de nous utiliser, de telle sorte à ce que lorsqu'il y a quelque chose qui est nécessaire, même autour de nous, eh bien nous puissions mettre à profit ses dons, ses talents, ses capacités, et être prêts et pouvoir travailler, agir, oui, avec l'onction, mais aussi en ayant fait notre part, qui est de nous préparer, de travailler, de faire du progrès, ce qui est une excellente attitude. Et puis, nous avions parlé des relations. On a vu dans les Écritures combien les Écritures nous enseignent au sujet des relations. Et qu'il y a certaines relations dont nous devons être vigilants et nous séparer, parce qu'elles vont nous influencer. Les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs, entre autres, nous dit l'Écriture. Mais aussi, il y a des relations qui peuvent être fructueuses et constructives. Et nous avons besoin de relations qui vont nous bâtir, de personnes qui soient comme des partenaires pour nous, personnes avec qui nous pouvons partager notre cœur, à qui nous pouvons partager nos défis aussi, à qui nous pouvons partager nos projets, nos objectifs, et des personnes avec qui nous pourrons mutuellement échanger, qui vont être pour nous des motivateurs, des moteurs dans notre avancée, qui vont parfois aussi nous corriger quand nous sommes en train de faire fausse route, mais vraiment des gens positifs. Et il est important de s'entourer de personnes comme ça. On a facilement des gens qui nous font des rapports dans tous les sens et on entend facilement des messages de détresse, d'impossibilité, de critique et toutes ces choses-là. Mais nous pouvons, et j'allais dire nous devons choisir de nous entourer et d'être dans la présence de personnes positives, constructives, de personnes qui croient en vous, de personnes qui croient en l'avenir, de personnes qui sont capables de voir et de chercher, ben là où, même là où il y a plein de choses qui ne vont pas, de trouver juste ce qui va bien et de mettre l'accent plus sur ce qui va que ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, je voudrais continuer un petit peu avec vous dans cette direction et j'aimerais vous parler de croire. Ou bien, je ne sais pas trop quel titre encore, je vais prendre définitivement, mais en tout cas, je voudrais vraiment vous encourager, vous montrer toujours à travers l'exemple de David, eh bien, qu'il est important d'y croire. Quand vous prenez une résolution, quand vous voulez accomplir quelque chose, il faut y croire. Et ça peut paraître évident ou simple, mais vous savez, il y a tellement de gens qui font des choses, mais sans y croire vraiment. Ils font des choses, ils entreprennent, ils font parce qu'on leur a dit que c'était bien, ou parce qu'ils pensent que ça serait une bonne chose, mais en réalité, si vous creusez bien, ils n'y croient même pas eux-mêmes. Vous faites quelque chose, mais vous n'y croyez pas. Et nous avons besoin, si nous voulons aller de la résolution à la réalisation, d'y croire. Nous avons besoin de croire à ce que nous faisons. Nous avons besoin d'assurance. Et j'ai même envie de dire quelque part, et merci Seigneur, parce qu'à l'instant, il y a eu comme cette inspiration qui était là, Dieu croit en vous. Et vous avez besoin aussi de croire en vous. Et nous avons besoin de croire en Dieu, ça c'est clair, et on l'a chanté, et c'est excellent de nous confier en lui, de compter sur lui, mais compter sur Dieu, ça veut dire aussi que nous croyons et nous comptons sur ce que Dieu a mis en nous. Autrement dit, vous avez besoin de croire en vous, vous avez besoin de croire au don de Dieu en vous. Si vous voulez accomplir vos résolutions, si vous voulez aller au bout, il vous faut croire, il vous faut avoir de l'assurance. Et bien sûr, je ne vais pas faire un enseignement vraiment que sur la foi, il y aurait beaucoup à dire, mais les Écritures nous disent, Hébreux 11:1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une manière de posséder aujourd'hui, au présent, les choses qui en sont l'objet. C'est-à-dire que quelque chose auquel je crois, ça veut dire que pour moi, je l'ai déjà. Même s'il peut se passer du temps avant la manifestation, mais je l'ai et je l'ai maintenant. Et l'Écriture nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10:17. Donc nous avons besoin, c'est vrai, d'entendre, et on l'a vu dans les relations, de bonnes choses, et nous avons besoin, c'est un des fondements, et nous l'avons déjà vu aussi, que nos résolutions soient basées sur une parole de Dieu. On ne va pas prendre des résolutions comme ça hasardeuses, et puis courir et battre de l'air et faire du vent, mais nous prenons des résolutions qui sont inspirées de Dieu, et alors la foi authentique peut naître, et nous pouvons avancer et progresser. Jésus a dit « qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et à plusieurs reprises, il dira à des personnes, ta foi t'a sauvé. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Quelle est votre foi? Aujourd'hui, face à vos résolutions, face à vos projets, face à ce que vous faites au quotidien, où est votre foi? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez à ce que vous faites? Vous n'avez pas besoin de me répondre, je vous pose la question pour vous-même. Et il peut être bon à un moment de se poser et de se dire, je suis en train de faire telle chose, j'ai pris tel engagement, je suis dans telle et telle activité, mais au fond, est-ce que je crois à ce que je fais? Parce que si vous n'y croyez pas, vous n'irez nulle part. On n'ira jamais plus loin que ce pour quoi on a la foi. Les Écritures nous disent que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les Écritures nous montrent également qu'on obtient les promesses ou qu'on arrive quelque part par la foi et la persévérance. Donc s'il manque l'ingrédient de la foi, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez poser plein d'actes, mais si vous n'y croyez pas, autant vous arrêter tout de suite, parce que ça n'ira nulle part. Vous allez vous fatiguer et vous serez finalement déçu. Mais nous avons besoin de croire. Croire en ce que nous faisons, croire en nous-mêmes, disons-le, croire aux capacités que Dieu nous a données, à ce qu'il a mis en nous pour pouvoir avancer avec assurance. Et aujourd'hui, je vais vous parler enfin de David et Goliath. Je vous l'avais annoncé depuis quelque temps et on y arrive. 1 Samuel 17. Et je voudrais juste tirer quelques remarques encore et quelques enseignements de cet épisode que, bien sûr, nous connaissons pour la plupart d'entre nous relativement bien. Mais au-delà de juste le fait que David soit maintenant enfin arrivé sur le champ de bataille pour combattre Goliath. Il y a tellement de choses à en tirer. On a déjà commencé dans cette série à parler de lui et à voir qu'il s'est passé pas mal de choses en amont. Souvent, quand on parle de David, on se dit « oui, David est arrivé » et puis il a envoyé une pierre à la face de Goliath et Goliath est tombé. C'est génial et c'est vrai, mais il s'est passé plein de choses avant. David devait d'abord recevoir l'onction. David a d'abord continué à faire la bonne chose qu'il savait faire en attendant le moment où Dieu allait l'amener en position d'autre chose. David a travaillé ses talents, ses capacités. David a fait plein d'expériences avec Dieu. Et puis un beau jour, son père va lui dire, tiens, tu vas aller amener des provisions à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Et ce que je voudrais souligner ici déjà, c'est que David, le jour-là, ne savait pas qu'il allait se retrouver face à Goliath et qu'il allait le combattre. Si on fait bien attention à l'histoire, on ne va pas tout lire, ça prendrait du temps, mais vous pourrez le relire pour vous si vous le souhaitez. On nous dit que le père de David lui a donné du pain, du fromage, etc., pour qu'il amène ça à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Et quand David arrive là, il va poser des questions autour de lui, parce qu'il voit les guerriers, il voit son peuple qui est là et qui est dans la peur. Et là, on lui apprend qu'il y a un certain Goliath, un géant du camp adverse, qui régulièrement se présente devant le peuple et qui vient les menacer, qui leur lance un défi, et que du coup, toute l'armée d'Israël recule et dans la peur, personne n'ose relever ce défi. Et puis, il pose ces questions-là, il s'intéresse à la situation, donc il ne la connaissait pas. Et ce qui peut être intéressant ici, juste en passant, c'est qu'il y a certains jours, peut-être quand vous vous levez le matin, vous entreprenez vos activités, j'aimerais vous conduire à avoir cette question à l'esprit en vous disant, mais qui sait si je ne vais pas avoir aujourd'hui une opportunité d'accomplir quelque chose? Qui sait si ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va m'amener et faire d'une de ces difficultés-là qui sont devant moi une opportunité? Qui sait si aujourd'hui il ne va pas y avoir un événement qui va faire que je vais passer du point où je suis à quelque chose de tellement différent et tellement plus grand après quoi j'aspire? David, jusqu'à présent, il était encore... Il gardait encore les brebis de son père et puis il était à temps partiel, on pourrait dire, au service du roi où il venait jouer de la harpe hein, pour le calmer quand l'esprit mauvais le dérangeait ou le troublait. Mais pour l'instant, il n'était pas en position ni d'être roi, il n'était pas non plus en position de guerre, il continuait simplement de faire ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais une occasion particulière va se présenter. Donc il apprend qu'il y a un géant là qui défie son peuple, etc. Et puis il s'intéresse à ce qu'il en est et puis les gens vont le renseigner. Et son frère va lui parler de ce Philistin. Et puis on peut regarder dans 1 Samuel 17, au verset 28, une des choses qui va se présenter très rapidement, une fois encore. Alors qu'il est là, en train de prendre des renseignements et de chercher à savoir ce qui se passe. 1 Samuel 17, 28, Eliab, son frère aîné, donc c'est le grand frère de David, qu'il avait entendu parler aux hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu ?» Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc qu'est-ce qui se passe ici? L'accusation. David est venu leur apporter du pain, des fromages, il est venu leur apporter quelque chose à manger, il est venu les servir. Et cette même personne que David est venu servir, maintenant tout de suite l'accuse. Et finalement lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu ne devrais pas plutôt t'occuper de tes brebis? Tu es juste un simple berger. Et je sais que tu es venu juste pour voir le spectacle. Tu es juste venu voir ce qui se passe ici. Et directement, l'accusation vient vers lui. Mais remarquez comment David réagit. Verset 29, David répond, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Verset 30, « Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. » Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que quand l'accusation se présente. Vous savez, peut-être que vous faites la bonne chose à certains moments, et vous venez vers quelqu'un vraiment d'un cœur pur pour servir la personne, pour lui faire du bien, et puis la personne va vous chercher ou vous prêter des intentions que vous n'avez pas. Mais ici, David ne s'est pas laissé troubler en disant « Bon, c'est vrai, je vais retourner m'occuper de mes brebis, et puis on verra plus tard. » David va juste répondre en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas le droit de parler comme ça? Je pourrais te poser une question ?» Mais tout de suite après, il se détourna pour s'adresser à un autre. Et la meilleure chose que vous puissiez faire quand l'accusation se présente, c'est juste vous détourner et passer à autre chose. C'est juste vous détourner et finalement il s'adresse à quelqu'un d'autre pour poser la même question et avoir la même réponse. Donc la meilleure manière de réagir, j'allais dire, à l'accusation si elle se présente alors que vous vous enquérez d'une situation, alors que vous êtes là et que, en toute innocence, j'allais dire, vous vous informez peut-être sur quelque chose et que vous êtes en chemin, nous le savons, vers sa destinée. David était destiné à être le libérateur de son peuple, et c'est ce qui va l'amener ensuite à être apprécié de tout le peuple et à devenir roi, comme Dieu l'avait loin pour le devenir. Mais David ne s'est pas pris au jeu de se justifier. David aurait pu commencer à expliquer en disant, mais attends, regarde, papa m'a dit de vous apporter ça, donc moi je suis venu, je vous ai donné la nourriture, tout ça. Non, David, il s'est contenté de se détourner et de poursuivre son chemin. Et la meilleure chose que vous puissiez faire quand on vous accuse, c'est de vous détourner. Regardez autre chose, passez à autre chose, passez votre chemin. Ne vous laissez pas troubler ou détourner par l'accusation. Mais vous, détournez-vous, passez votre chemin, tout simplement. Vous savez, ça arrivera facilement. Et bien sûr, si c'est Dieu qui vous parle pour vous remettre face à vos responsabilités ou parfois pour vous corriger, on en a besoin, mais Dieu ne va pas vous accuser. Dieu va attirer votre attention et il va le faire de telle manière que ça vous tire vers le haut. Vous avez envie, vous désirez, vous recherchez de tout votre cœur. Oui, c'est vrai, là, je suis passé à côté et je veux vraiment revenir et m'attacher à lui. Mais il le fait d'une manière qui va vous construire, d'une manière qui vous attire plus près de son cœur pardon, et qui vous fasse avancer. Mais quand l'ennemi vous accuse, il vient pour vous détruire. Il vient vous tirer vers le bas. Alors que David venait les servir, et puis là, il voyait tout le monde, effectivement, il voyait ce qui se passait, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est de cet incirconcis qui nous menace comme ça? Et puis il demande, mais quelle sera la récompense pour celui qui gagnera? Il s'intéresse aux intérêts, finalement, de son peuple, il s'intéresse à ce qui se passe, et on vient lui prêter de mauvaises intentions, on vient comme pour l'enfermer, comme pour dire, mais toi, retourne là-bas, t'es juste un berger, je te connais, t'es orgueilleux, etc. Et peut-être que ça vous est arrivé, que quelqu'un vienne vers vous en disant, oui, mais toi, de toute façon, je te connais. Oui, mais toi, de toute façon, je sais que tu as une idée derrière la tête. Et peut-être que les gens vous connaissent, mais peut-être qu'ils connaissent celui que vous étiez, mais ils ne connaissent pas celui que vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'ils s'imaginent des choses parce qu'ils ont peut-être grandi avec vous, ou ils vous ont vu fonctionner à un certain moment, mais ils ne savent pas qui vous êtes maintenant. Ils ne connaissent pas votre cœur. De la même façon que nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans le cœur des personnes qui sont autour de nous, à moins que l'Esprit ne nous le révèle. Donc l'accusation, eh bien, la réponse est simple. Vous vous détournez et vous restez concentré sur votre objectif. Ensuite, 1 Samuel 17, toujours, on va aller au verset 33. Et en fait, là, c'est David qui s'approche maintenant de Saül, le roi, puisque les gens ont vu qu'il s'intéressait au combat et on a rapporté ses paroles au roi. Et alors, David se tient là devant le roi et Saül, verset 33, dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Encore une deuxième chose encore qui se présente à lui. Avant qu'il ne puisse être sur le champ de bataille et relever ce défi, on vient d'abord l'accuser. Donc il se détourne, il passe à autre chose. Maintenant, on vient pour l'intimider. Là, c'est l'intimidation ou alors l'infériorité qui se présente à lui. Et parfois, on s'inflige soi-même un complexe d'infériorité en disant « Mais je peux pas, je suis trop petit, je suis pas assez fort, je suis pas assez beau. » Ou alors ça vient de l'extérieur. Et là, le roi lui dit « Tu peux pas !» Et je ne sais pas, je pense et je crois que pour plusieurs d'entre vous, vous avez souvent entendu « tu peux pas ». Tu n'es que ceci ou tu n'es pas cela. Et ici, on lui dit « tu peux pas, tu n'es qu'un enfant, mais l'autre est un guerrier ». Le problème de Saül, c'est qu'il connaissait David juste comme ce berger qui jouait bien de la musique. Et il ne savait pas que derrière ce berger qui jouait bien de la musique, il y avait aussi un homme de guerre que Dieu s'était préparé déjà là-bas dans les campagnes alors qu'il était seul à veiller sur son troupeau. Tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu n'es qu'un enfant, tu n'es que ci, tu n'es que ça. Regardez comment David réagit, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. C'est incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Donc qu'est-ce que David fait face à cette intimidation encore qui se présente et ce sentiment, cette impression d'infériorité? David se réfère à ce que Dieu a déjà fait pour lui. David se réfère aux exploits qu'il a déjà accomplis. Et quand vous trouvez dans une situation et que vous avez l'impression qu'on vous fait croire que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas ce qu'il faut, plutôt que de regarder à ce que vous n'avez pas peut-être, rappelez-vous de ce que vous avez déjà accompli. Rappelez-vous de choses que vous avez déjà réalisées. Vous avez certainement réussi au moins une fois une toute petite chose dans votre vie. Eh bien, regardez à cette même toute petite réussite que vous avez eue. Ne regardez pas à ce qu'on vous dit. Il aurait très bien pu dire « bon, bah, ok, c'est pas grave ». On va laisser tomber. Mais il s'est appuyé sur ce que Dieu avait fait et il a commencé à parler positivement en disant « L'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore ». Et c'est l'excellente attitude à avoir. Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà accompli et prenez confiance dans les choses à venir devant vous. Nous avons besoin d'assurance. Si nous voulons accomplir, réaliser ce que nous avons pris comme résolution, pardon, il nous faut de l'assurance, il nous faut avoir confiance. Et l'une des manières d'avoir confiance, c'est de nous rappeler de ce que nous avons déjà vécu. L'Écriture nous dit aussi, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Et c'est bon de le faire parfois, de se rappeler, de chercher, mais finalement, qu'est-ce que j'ai déjà vécu? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Et bien sûr, on peut tous dire, il a fait plein de choses. Et parfois, c'est bon de s'en rappeler, voire même de l'écrire, de dire, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et vous mettez ça sous vos yeux et vous dites, oui, Dieu a fait ça pour moi et il le fera encore. Et ça vous donne la force et le courage et l'assurance de continuer et d'aller de l'avant. Vous savez, à aucun moment, David n'a parlé de la grandeur ou de la force ou de la puissance ou des qualités de son ennemi. Jamais. Tout le monde lui a dit, il est grand, il est fort, c'est un guerrier. David ne s'est pas occupé de ça. David a parlé de la grandeur de celui qui est plus grand que tout. David a dit, l'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore. David ne s'occupe pas et n'accorde aucune attention à la grandeur de ce géant. Il dit, tout ce que David voit, c'est que cet homme-là est en train d'insulter l'Éternel. Cet homme-là est en train de se moquer du peuple de Dieu et il ne peut pas supporter qu'il en soit ainsi. Et vous aussi, peu importe que ce qui est devant vous, peut-être vos ennemis, peut-être vos obstacles, soient grands et plus grands que ce que vous ne pensez pouvoir surmonter, mais ne regardez pas à ça qui paraît grand, regardez à celui qui est plus grand que tout. Regardez à celui qui est au-dessus de tout. Et Philippiens 1, 28, l'Écriture nous dit, Philippiens 1, 28, il est dit, ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires, ce qui serait pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Remarquez, ne vous laissez aucunement effrayer par les adversaires. Donc ce n'est pas aux adversaires, ou aux obstacles, aux difficultés que nous devons accorder notre attention. Ce à quoi vous accordez votre attention, c'est ce qui prend du crédit, c'est ce qui prend de l'importance dans votre vie. Donc plus vous regardez la difficulté, plus vous regardez les obstacles, plus vous regardez les problèmes, plus ils sont importants dans votre vie. Mais commencez à regarder autre part. Élevez votre regard. Regardez vers celui qui peut et qui va faire plus que ce que vous imaginez et pensez. Regardez à celui qui a dit qu'il vous a appelé, qu'il vous a oint, qu'il vous a donné tout ce qu'il fallait pour accomplir votre vie et croyez en lui, croyez en sa puissance. Regardez plus à celui qui est au-dessus de tout qu'à la difficulté ou qu'à l'obstacle qui se présente, aussi grand soit-il. 1 Samuel 17, toujours on y revient. Une autre remarque au sujet de ce combat que David était sur le point de mener et de comment il s'en approchait. 1 Samuel 17. Verset 38. Donc finalement, Saül le laisse aller. Il dit, vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. Et verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure et je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies dans le torrent, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ici, ce que je voudrais vous montrer et vous rappeler, c'est soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Mais n'essayez pas de porter l'armure de quelqu'un d'autre. Et ne permettez à personne de vous faire rentrer dans un cadre ou dans un moule qui n'est pas le vôtre. Saül se disait, ben c'est ce géant, il faut qu'on aille le combattre. David veut à tout prix y aller, on va le laisser y aller, mais on va y aller avec notre manière, avec nos méthodes, avec nos outils, avec nos armes. Et il a voulu faire mettre sur David une armure, un casque, une épée, mais David ne pouvait même pas se déplacer avec ça, parce que ce n'était pas fait pour lui. Et ce n'était pas comme ça que Dieu voulait combattre. Ce n'était pas comme ça que la victoire devait être remportée. Donc David a déposé tout ça, il a ramassé ses propres armes. Une fronde, il avait sa gibecière sur lui pour mettre les cailloux et c'est comme ça qu'il s'est avancé vers le Philistin. Donc vous êtes un original, vous êtes vous-même, Dieu vous a fait tel que vous êtes et combattez avec les bonnes armes, avec les armes que Dieu vous donnera au moment opportun pour la bonne chose. Et ici on pourrait regarder dans l'Écriture, il y a plusieurs exemples. Un beau jour dans les Juges, on voit Gédéon menait un combat avec des armes qui sont clairement non conventionnelles. Alors qu'ils devaient conquérir le camp ennemi, ils n'ont pas pris d'épée, ils n'ont pas pris de quoi se battre. Vraiment, Dieu leur a fait prendre différents objets à travers lesquels il allait mettre en fuite le peuple qu'il était allé rencontrer. Et plusieurs fois dans les Écritures, on voit que le combat se mène non pas selon des manières humaines. Jésus lui-même n'a pas vaincu le péché, n'a pas vaincu le diable, la mort et le monde avec des armes attendues. Il a vaincu par la croix. Ce qui aurait pu sembler être une défaite et allait finalement être la plus grande victoire qui ait jamais été remportée. Et ici, David ne devait pas prendre les armes qu'on voulait lui imposer, donc il s'en est débarrassé. Donc ne vous laissez pas mettre dans un moule qui n'est pas fait pour vous. Et si vous y êtes, débarrassez-vous de tout ça. Enlevez ces armures qui sont trop lourdes et qui vous embêtent. Enlevez ce casque-là qui pèse sur votre tête, qui vous fait mal. Et déposez cette épée avec laquelle vous n'arrivez même plus à marcher correctement. Là, laissez tout ça, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a besoin que d'une chose. David, il avait besoin d'une seule pierre. Certes, il en a pris plusieurs. Alors, les commentateurs disent plein de choses différentes, mais il n'y en a aucune qui m'intéresse vraiment. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on aura une révélation là-dessus, si c'est important, mais... David avait besoin d'une seule chose. Vous n'avez besoin que d'une seule chose. Le nom de Jésus. Qui va être utilisé à bon escient et va atteindre sa cible à tous les coups. À tous les coups. Donc soyez vous-même et puis faites face. David a fait face. Souvent la tentation que nous pouvons avoir alors que nous marchons, que nous avons pris des résolutions et puis tout d'un coup il y a un géant là qui se présente, qui peut prendre plein de formes différentes. L'une des tentations c'est finalement de nous arrêter là où nous sommes. En disant, bon, bah, après tout, c'est déjà pas mal, on va en rester là. Hein. Je vais pas aller plus loin, là, ça commence à devenir autre chose, et puis on s'arrête là. Ou alors on laisse tomber, on se dit, non, mais finalement, c'est trop dur pour moi, j'ai mis peut-être la barre trop haut. David a fait face à ce géant. Alors que tout le monde était en train, jour après jour, de reculer devant les menaces, et puis de rester comme ça, David a fait face, il s'est approché du Philistin. Il n'est pas resté dans une situation comme ça qui n'allait nulle part, dans une espèce de léthargie, mais il a fait face à la situation. Et nous aussi, si nous voulons accomplir des choses, nous devons faire face aux difficultés qui se présentent. Nous devons faire face au géant et avancer vers lui. Au verset 42 maintenant, David se trouve face au géant. Et le Philistin le regarda, verset 42, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Quel accueil! Et là encore, un autre obstacle, la provocation, la menace. Est-ce qu'on vous a jamais provoqué ou menacé? Mais regardez la réponse de David. David dit au Philistin, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi... Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Waouh ! Donc on est en train de le menacer, de chercher encore à l'intimider, de le provoquer. Qu'est-ce que David fait ? Il dit, attends, toi tu viens là avec tes armes et toutes ces choses-là, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et ça pas dit aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain, pas plus tard quand ça ira mieux, aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard votre combat. Même si vous avez l'air d'être menacé, qu'on vous dit que vous êtes rien que vous-même, sur le coup vous ne sentez pas trop à la hauteur. Non, rappelez-vous en quel nom vous venez. Rappelez-vous qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Rappelez-vous qui vous a donné la vocation et l'onction. Et maintenant, vous faites comme David, vous restez... Non, aujourd'hui. Et ce que le Philistin avait utilisé comme menace contre David, eh bien, David va le lui retourner. En disant, non, aujourd'hui, c'est toi qui serviras de pâture aux oiseaux du ciel. Le Philistin lui dit, viens et moi je te... comment il dit ça, viens, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Mais David dit, non, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et c'est toi qui serviras de pâture aux oiseaux. Et même tout ton camp avec toi, je vous tuerai, je te couperai la tête. Aujourd'hui. Donc c'est pas demain, c'est pas plus tard, on ne remet pas au lendemain. Et ce que j'aime, c'est l'objectif final. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et voilà l'objectif, voilà la bonne manière de, de s'élancer dans le combat et de surmonter n'importe quel obstacle en se disant, au-delà du seul fait que moi j'accomplisse ou pas quelque chose, au-delà du seul fait que ça change quelque chose dans ma vie ou pas, il faut que le monde sache qu'Israël a un Dieu. Il faut que le monde sache qu'Arsène a un Dieu. Il faut que le monde sache que Malou a un Dieu. Il faut que le monde sache que le centre Zoé a un Dieu. Alors on peut me menacer, on peut me faire toutes sortes de remarques, on peut venir avec moi en toutes sortes de choses et toutes sortes de noms, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et si c'est pas juste pour moi, si c'est même pas juste pour mes enfants, si c'est même pas juste pour les gens autour, mais il faut que le monde sache qu'il y a un Dieu et que nous avons un Dieu. Et ça, c'est bon, la détermination, la force. Non, il faut que le monde sache que l'Éternel a un Dieu. Donc il s'est levé, et même si nous avons des combats, nos combats ont pour objectif, certainement souvent, de nous détruire. Mais Dieu change le mal en bien. Et de notre réponse et de notre approche va dépendre l'issue. Et ce qui est venu pour vous détruire peut finalement devenir une excellente opportunité. Ce géant-là aurait pu détruire David, mais finalement, s'il n'y avait pas eu le géant, peut-être que David ne se serait pas démarqué au milieu de son peuple et n'aurait pas obtenu l'appréciation de tout le peuple qui finalement sera avec lui jusqu'à temps qu'il devienne roi en Israël. Donc ce qui aurait pu être une grande difficulté va finalement devenir une opportunité, un propulseur dans sa destinée, dans sa marche et dans son avancée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? David va prendre sa fronde, mettre une pierre et la lancer contre ce géant. Il est dit au verset 48, « Le Philistin se mit en mouvement pour avancer au devant de David, et David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. » Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Donc la victoire là, elle est obtenue. Elle est obtenue. Pas avec des moyens traditionnels, pas avec les moyens qu'on attendait, mais avec juste la bonne chose qui correspondait, mais surtout à cause de la détermination et la foi de David. David lui avait dit, aujourd'hui tu seras par terre, tu serviras de nourriture aux bêtes du ciel, et je te couperai la tête. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est de ce genre de détermination-là, c'est de ce genre d'assurance-là dont nous avons besoin si nous voulons aller de la résolution à la réalisation. Si nous voulons accomplir des choses, je ne peux pas vous raconter des histoires, vous rencontrerez des difficultés. Vous allez rencontrer des géants sur le chemin. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous arrêtez, ou bien vous reculez, ou bien vous trouvez des excuses, ou alors est-ce que là, vous allez puiser en vous-même, vous allez croire dans ce que Dieu vous a dit? Vous allez croire finalement en vous-même. David croyait certes en Dieu, en l'Éternel qui l'avait délivré, et il a souligné ça en disant « L'Éternel me délivrera encore ». Mais David aussi croyait en ce qu'il avait. David croyait en sa capacité, en sa force, sinon il ne se serait pas mis à courir contre ce géant. Ou alors il aurait prié, il aurait dit « Éternel, envoie donc quelqu'un ». Et David était plein d'assurance. Devant ce géant, il n'était pas en train de balbutier ou de chuchoter timidement en disant « Bon, je ne sais pas trop ce qui va se passer ». Mais David s'est tenu ferme et s'est tenu plein d'assurance. Il a couru vers cet ennemi et il l'a combattu et il a remporté la victoire pour que le monde sache. Et remarquez encore une chose, j'essaie d'aller vite puisque l'heure avance. Verset 54, David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Puis ensuite il va se retrouver devant le roi et une des choses qui me frappe c'est que le roi Saül va demander, mais c'est qui ce garçon? C'est le fils de qui? Il dit, mais attends, Saül, t'as un problème là? Tu sais pas que c'est David qui... Et en fait, il était tellement convaincu que certainement David n'y arriverait pas, qu'il n'avait du mal à concevoir même que ce soit David qui ait réussi ce combat. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que David, non seulement il a fait tomber son ennemi et il l'a tué. Alors, c'est un peu sanglant, excusez-moi mesdames, hein, mais c'est comme ça dans le temps. Hein. Mais David va prendre la tête du Philistin et il se baladait avec. À un moment, il l'a mis dans la tente, ici, il est dit. Et puis, quand il va se tenir devant le roi Saül un petit peu plus tard, il nous est dit qu'il est venu avec la tête du Philistin. Donc, David se promenait avec son trophée, là. Mais quelque part, j'aime ça. Parce que depuis un certain temps, les Israélites survivaient au quotidien. Avec ce géant-là qui les menaçait, puis ils reculaient, ils attendaient que ça se passe. Et Et David est arrivé, il a trouvé ça insupportable. Et David a vaincu, mais David a complètement détruit l'influence de cet ennemi. Il l'a détruit, il allait jusqu'au bout. Et ça, nous devons aller au bout. Nous ne devons pas juste survivre en essayant de nous mettre à peu près en sécurité pour être tranquille, mais nous devons combattre et détruire ce qui se met en opposition à notre avancée. Je vous encourage, je vous demande de combattre et de détruire ce qui se met sur votre chemin, ce qui vous empêche d'accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Détruisez-le carrément. Non seulement faites-le tomber une fois, non seulement peut-être faites-le tomber à terre, mais coupez sa tête. Détruisez-le, coupez la tête, c'était un symbole dans les guerres de l'époque pour montrer qu'il est mort et il est bien mort. C'est bien terminé, j'ai sa tête là, c'est fini. Et nous devrions faire de même en disant, mais dans ce qui vient s'opposer à moi, ce qui vient m'empêcher, je vais le combattre. Je vais le détruire complètement et je vais lever cette tête en disant, c'est terminé, l'influence du péché là, c'est terminé, l'influence de l'ennemi dans ma vie, c'est terminé. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'avantage parce que Jésus a vaincu. Jésus a déjà vaincu. Jésus nous dit, prenez courage petits enfants, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu déjà à notre place. Romains 8, 37 nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, pourquoi ? Parce que Jésus a combattu, il a vaincu, mais c'est nous qui profitons des effets de sa victoire. Vous êtes avantagés, vous êtes plus que vainqueurs. Colossiens 2, 14 et 15, des passages que vous devez inscrire en vous, où il nous est dit que Jésus, par l'œuvre de la croix, a effacé notre condamnation, mais il est dit qu'il a dépouillé les puissances et les autorités et il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. De la même façon que David a livré en spectacle ce géant en le faisant tomber et puis en exhibant sa tête, de la même façon Jésus a livré en spectacle les démons, le diable et toutes les puissances qui peuvent se lever contre vous en triomphant d'elles par la croix, c'est déjà fait. Et vous avez cet avantage-là. Donc même quand des géants se lèvent, quand la honte se présente, quand l'accusation vient, quand l'intimidation vient, quand vous êtes accusé, vous sentez inférieur, quand on vous dit que vous ne pouvez pas, ou quand même des obstacles énormes se présentent et vous vous demandez comment vous allez encore vous en sortir, vous pouvez vous rappeler d'une chose, Romains 8, 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc s'il y a un géant qui est là, c'est certainement pas pour me détruire, c'est certainement pas pour que moi je sois dans la défaite et que je rate ce que je suis venu faire, mais s'il est là, c'est pour mon bien. Et donc il est là, c'est pour que je le vainque, c'est pour que je sorte victorieux, c'est pour que je remporte la victoire et que le monde sache que j'ai un Dieu. Que le monde sache que lorsque j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je ne m'arrête pas en chemin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont venus contre vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous limite. Vous pouvez décider maintenant que ceux qui vous bloquaient et vous limitaient jusqu'à présent soient maintenant l'objet même de votre élévation et de votre avancement. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un Goliath, il y a un géant, tout le monde a peur, tout le monde tremble. On vous dit que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne pouvez pas le faire. N'écoutez pas ce qu'on dit, écoutez ce qu'il a dit. Et si vous faites ce qu'il dit et que quelque chose se présente, vous avez tout ce qu'il faut pour tout surmonter. Et vous allez vaincre. Mais ça commence par l'intérieur, vous devez y croire. Vous devez y croire et être plein d'assurance. Et je vous demande 5 minutes. Ça va ? 2 Corinthiens 10, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. 2 Corinthiens 10, oh merci Seigneur. Waouh, ça sent la victoire pour certains là. J'entends le bruit des frondes là qui sont en train de... Waouh ! Eh, merci Seigneur. Il y a un autre bruit que j'entends. Oh merci Seigneur. Ça, c'est la pierre qui arrive et qui... Droit dans le mille. J'en sens certains qui commencent à se secouer, là. Ça commence à être bon. Vous avez votre pierre dans vos fronts. Vous commencez à bouger. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Mais allez-y et visez bien. Et je sais que cette semaine, ça va faire... Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. 2 Corinthiens 10. Verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc où est-ce que ça commence, ce combat-là? Ça commence à l'intérieur, ici, nos pensées, nos raisonnements. Et là, si vous me connaissez, je sais que vous savez que je pourrais ouvrir des chapitres et des chapitres. C'est un sujet qui m'a énormément passionné, qui continue de me passionner. Mais je voudrais juste vous donner quelques indications, quelques clés. Ça commence par l'intérieur. Donc croyez-y. Ayez de l'assurance. Soyez convaincus que ce que vous entreprenez, vous allez l'accomplir. Et l'une des manières de le faire, premièrement, c'est ayez une vision. Ayez une image claire. Ayez l'image en vous de ce que vous voulez accomplir et de ce que vous accomplirez. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que David, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, David ne voyait déjà plus ce grand Goliath debout en train de le menacer, de se moquer de lui. Mais David le voyait déjà à terre, la tête coupée, en train d'être dévoré par les oiseaux du ciel, comme il l'avait lui-même prophétisé. Et plusieurs fois dans les Écritures, Dieu dira à ses serviteurs, « Lève les yeux, regarde !» Et disait à son serviteur, « Regarde le pays que je vais te donner. » Il disait à Abraham, « Regarde les étoiles, si tu peux les compter, ça sera ta descendance. Mettez une image sous vos yeux et ayez une vision de ce que vous voulez accomplir. » Demandez-vous, comment ce sera quand vous y serez? Comment ce sera? Comment je me sentirai? Comment ce sera quand j'y serai arrivé? Qu'est-ce que je veux? Et maintenant, avec cette image, régulièrement, regardez cette image. Et voyez-vous comme si vous y étiez. Parce qu'en fait, vous y êtes déjà à partir du moment où vous y croyez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, on ne le voit pas encore, mais on le démontre. C'est comme si j'y étais. Ayez une vision, voyez. 2 Corinthiens 4, 18, je le cite en passant, Paul dit, nous regardons non pas les choses visibles, mais nous regardons les choses invisibles. Et il disait, même s'il y a des afflictions qui sont là, ça ne fait rien parce que ça produit un poids de gloire plus grand au-dessus de nos têtes. Donc ne regardez pas ce que vous voyez. Je l'ai dit tout à l'heure, je le reprends. Ce que vous regardez, ce que vous considérez, c'est ce à quoi vous donnez du crédit dans votre vie. C'est ce qui prend de l'importance. C'est ce qui peut vous influencer. Donc cessez de regarder ce qui vous bloque. Cessez de regarder ce qui n'y a pas, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas. Regardez ce que vous visez. Regardez votre objectif. Regardez, croyez et soyez plein d'assurance pour avancer dans cette direction. Donc, ayez une vision, rejetez les pensées négatives. On l'a vu, l'accusation, l'intimidation, les limites, l'impossibilité, les menaces. Il pourrait y avoir tant d'autres choses, mais comme David, tout simplement, détournez-vous-en. Quand ça vient, vous vous en détournez, vous passez à autre chose. Et vous remplacez ça par des pensées positives. Pensez de foi, pensez de victoire, pensez de ce que Christ vous a dit. Vous rappelez la parole de Dieu à chaque fois que ces choses-là se présentent. Vous savez, ici, on disait, David, toi, t'es qu'un enfant, toi, t'es pas un grand guerrier, toi, t'as pas ci, t'as pas ça. Mais ailleurs, Dieu disait toujours le contraire à ses serviteurs. Quand Moïse se croyait trop peu qualifié, quand Jérémie encore se croyait trop peu qualifié, à chaque fois, Dieu lui dira, ne dis pas, je suis un enfant. À Gédéon, qui ne savait même pas de quoi on parlait, Dieu lui dira, vaillant héros. Dieu ne vous appelle même pas parce que vous êtes maintenant, il vous appelle parce que vous pouvez devenir si vous faites confiance à celui qui vous a appelé. Donc ne regardez pas ce que vous êtes, ce que vous avez, ou surtout pas ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous pouvez être, regardez ce que Dieu dit, en vous confiant en celui qui a déjà fait tant dans votre vie et qui peut vous amener encore bien au-delà. Une autre chose, ne renoncez pas. Et j'aimerais dire, vous n'avez même pas besoin d'envisager l'échec. Et souvent, on nous dit qu'il faut être sage, il faut se dire, et si ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on fait? Non. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de, et si ça ne marchait pas, ça va marcher. Vous n'avez pas besoin d'envisager l'échec, vous n'en avez pas besoin. Restez focalisé sur votre objectif, pensez, réussite, succès, victoire. David, à aucun moment, ne s'est dit, et si finalement ça ne fonctionnait pas, David s'est levé et a dit, toi, aujourd'hui, tu seras par terre. Et il est revenu avec la tête de ce géant entre les mains. Jésus prenait autorité sur les maladies, sur les démons. Il n'a jamais laissé entendre qu'il y ait peut-être une place pour le doute. Jésus parlait, la chose s'accomplissait. Ne renoncez pas et vous n'avez pas besoin d'envisager l'échec. Vous n'avez réellement échoué que lorsque vous abandonnez. Donc oui, peut-être que ça ne fonctionnera pas la première fois, ou peut-être même que ça n'a pas fonctionné des fois auparavant, mais vous n'avez pas encore échoué, aussi longtemps que vous n'avez pas abandonné. Tant que vous n'avez pas abandonné, ce n'est pas terminé. Donc regardez plus à ce que vous avez qu'à ce que vous n'avez pas. Regardez à ce qui a fonctionné. et envisagez seulement la victoire. N'ayez pour seule option que de réussir. Quand vous vous levez pour faire quelque chose, vous partez dans l'idée de le réussir, de l'accomplir. Ne partez pas en vous disant, bon, j'y vais, puis si jamais ça ne marche pas, je ferai autre chose demain. Non ! Croyez à ce que vous faites. Et ne faites une chose que si vous y croyez. Si vous n'y croyez pas encore, n'y allez pas. Attendez d'y croire. Mais maintenant, si vous faites quelque chose, croyez à ce que vous faites et n'envisagez d'autre option que la réussite, que l'accomplissement. Ce qui peut vous aider, c'est aussi de regarder au chemin parcouru plutôt qu'à ce qui reste à faire. Souvent, on peut se décourager ou être inquiet quand on se dit « mais il y a tellement encore à faire ». Mais regardez plutôt ce que vous avez déjà fait. Et au vu de ce que vous avez déjà fait, fortifiez-vous, soyez dans la foi, ayez de l'assurance. Encore une fois, comme dans le mec David, soyez pleinement vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à faire ce que quelqu'un voudrait que vous fassiez. Faites ce que vous avez à faire. Rappelez-vous, vous avez l'onction pour votre mission. Vous avez l'onction pour accomplir votre vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Et vous n'aurez de compte à rendre à notre maître que pour ce qu'il vous aura demandé à vous, et pas ce que les autres vous auront demandé. Un autre point, j'ai presque fini. Croyez et confessez la vérité à votre sujet et sur les circonstances. Dites « je puis tout ». Dites « Dieu est pour moi ». Dites « j'ai tout ce qu'il faut ». Ne dites pas autre chose. Dites ce qui est vrai. Croyez-le et dites-le. David ne s'est pas contenté d'être convaincu qu'il vaincrait Goliath. Il a dit à Goliath « aujourd'hui, je vais te vaincre ». Il a exprimé, il a confessé la vérité, il a confessé sa foi. Et l'Écriture nous dit, c'est Dieu, et pour nous, qui sera contre nous? L'Écriture nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça, c'est un passage qui m'aide beaucoup et qui va vous aider si vous vous l'appropriez régulièrement. Je peux tout. Donc même quand on me dit, tu peux pas, il y a le tu peux pas qui arrive, je me détourne, je regarde, je puis tout par Christ qui me fortifie. Même si moi-même, par moments, je ne suis pas trop sûr de moi, je reviens à la parole de Dieu. Non, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et une parole que j'aime tant et qui est tellement puissante et tellement vraie, à celui qui peut faire, par la puissance. Et remarquez comment il peut le faire. Par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez, à lui soit la gloire. Donc rappelez-vous, déclarez à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi. Donc ici encore on le voit, croire, oui, en Dieu, compter sur lui, s'attendre à lui, mais ça passe aussi par le fait de croire en ce que Dieu a mis en moi, parce que c'est par la puissance qui agit en moi qu'il va faire infiniment au-delà de ce que j'espère et pense. Et puis allez jusqu'au bout. Ne vous contentez pas d'un peu mieux, mais allez jusqu'au bout. Arrachez la tête de l'ennemi, ne le renversez pas seulement. Ne le mettez pas seulement en fuite, mais tuez-le et arrachez sa tête, allez jusqu'au bout. Et je conclue avec Hébreux 10, 35, qui nous dit « N'abandonnons pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Donc n'abandonnez pas votre assurance. Croyez à ce que vous faites. Soyez plein d'assurance. Tenez bon, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas votre assurance. Mais au contraire, fortifiez-vous. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Et comme l'a fait David, c'est aujourd'hui. C'est pas plus tard, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis victorieux. Aujourd'hui, je progresse. Aujourd'hui, je tiens mes engagements. Aujourd'hui, mes résolutions deviennent des réalités. Aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, je suis plein d'assurance. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, et vous pouvez continuer la liste pour vous, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est au présent. Parce que la foi, c'est l'assurance de ce que j'espère, la démonstration de ce que je ne vois pas. Donc si nous voulons voir nos résolutions devenir des réalités, il nous faut y croire, il nous faut être plein d'assurance. Et cette assurance nous vient quand nous combattons le bon combat, qui est celui de renverser les forteresses, de renouveler nos pensées, d'adopter la bonne approche et de parler le bon langage, jusqu'à ce que nous voyons la réalisation. Amen. Amen. Alléluia.